les jardinières.
C'est déjà le tout dernier week-end du mois d'avril, un week-end propice au jardinage. Et pour les conseils, vous êtes au bon endroit. Bonjour Noélie.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy et vous êtes notre invité jusqu'à 8h.
Et ce matin, on va parler d'arbres, de fleurs et de prunus. Soyez les bienvenus.
7h, 8h. Les jardinières.
Olivier, un dicton dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît ». C'est valable aussi pour le jardin.
Alors oui, tout à fait, c'est un dicton qui est connu, mais pour le jardin, c'est la preuve encore ce matin pour ceux qui se sont levés tôt que le sol est gelé, on a des belles gelées blanches, le froid est encore là, donc c'est encore à faire attention, bien sûr.
Et puis sinon, vous avez quelques petits conseils à faire au jardin ce week-end pour les plus
Alors par
motivés.
Rapport à ces températures qui sont un petit peu négatives et basses le matin, il y a beaucoup de gens qui, je le vois, c'est un petit peu un exemple que je vais donner, on a quand même envie de jardiner, on a quand même envie de planter des choses. Et puis bien sûr, c'est un moment qui est très très propice à mettre en place toutes ces petites plantes, moi je dirais le groupe des petits fruits, fraisiers, framboises, résine-lait, mûrier. On a vraiment une demande qui est très forte en cette période de début de printemps où c'est que les gens plantent ce genre de végétaux et qui est vraiment favorable. Le sol est bien, il est sec, donc on peut mettre ces cultures en place. Si on voyage un peu dans le centre de la Suisse, on voit aussi tous ces grands champs de fraisiers maintenant. On voit aussi les asperges qui sont en train de sortir. Donc c'est des cultures qui sont à mettre facilement en place à cette période et puis la météo nous propose de pouvoir le faire.
Merci Olivier, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et en deuxième partie d'émission, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. On attend vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 et vous nous parlerez en direct. Mais les plus timides peuvent aussi remplir le formulaire disponible sur notre site avec la possibilité de joindre une photo ou de simplement nous écrire un SMS. Vous commencez votre message avec le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et votre nom que vous nous envoyez au 939.
7h, 8h, les jardinières.
Il suffit de lever les yeux pour voir que la nature est en pleine explosion. Les arbres sont couverts de fleurs, même avant l'apparition des feuilles. On va essayer de comprendre tout ça avec notre invité, Olivier Ribaud. Oui, vous êtes aussi notre Olivier. Vous êtes pépiniériste à Port-en-Truy. Olivier, alors, pourquoi est-ce que la plupart des arbres fleurissent maintenant, au printemps, et pas à un autre moment ?
Alors, c'est une bonne question, mais c'est quand même assez logique à comprendre. Toute la végétation sort de l'hiver, donc sort de la dormance naturelle. Toutes les plantes se sont mises au repos à l'automne. Quand les grands froids arrivent, la plante, eh bien, elle va perdre ses feuilles, elle va se mettre en hivernage, pour la plupart, hein, bien sûr. Mais ça n'empêche pas que même celles qui gardent leurs feuilles sont aussi en période d'hivernage. Donc, les plantes vont se mettre en repos, en dormance, on appelle ça un peu. Et puis, bien sûr, dès que les apparitions de la chaleur du printemps, eh bien, ils se réveillent un peu et c'est ça qui donne cet effet de casser cette dormance pour pouvoir faire fleurir leurs bourgeons qui ont été préparés pendant la saison d'avant.
Alors Olivier, peut-être sans rentrer dans les détails scientifiques de la microbiologie, mais qu'est-ce qui déclenche cette floraison justement ?
Eh bien justement, c'est cet effet de chaleur. Si on peut le voir, tout le monde a déjà mis peut-être des branches d'un certain arbre, une certaine plante à l'intérieur pour faire même un arbuste de Pâques et des choses comme ça. On voit que d'amener à la chaleur plus forte une plante, eh bien cette plante se réveille. Donc c'est vraiment issu que de la chaleur. On arrive à faire fleurir des branches de forsythia qui ont été sur un arbuste pendant la saison d'hiver. On les coupe, on les met à l'intérieur à 20-22 degrés dans une température d'appartement, et bien au bout de 15 jours, les fleurs vont sortir. Donc c'est vraiment la chaleur qui réveille la dormance des plantes.
Et pourquoi les fleurs d'abord et pas les feuilles ?
Alors de nouveau, c'est une question un petit peu de logique, mais il y en a quand même certains qui ont leurs feuilles et après il vient la fleur. Il faut savoir que la fleur, bien sûr, c'est un petit peu à répéter, mais c'est ce qui va donner naissance à la graine. Donc pour avoir une période assez longue pour les arbres et les plantes qui vont fleurir tôt, c'est pour pouvoir après produire la graine après la fleur. Si on prend l'exemple d'un pommier ou d'un fruitier qui fleurit très vite au printemps, c'est le but, c'est qu'après la plante, l'arbre ait le temps de former le fruit où à l'intérieur, on va y retrouver la graine pour qu'après, jusqu'à l'automne, eh bien, cette plante puisse se reproduire sur le cycle d'une saison sans être obligé de faire ça sur deux hivers parce que bien sûr, la graine ne serait pas mature et puis ne pourrait pas se féconder. C'est schématique parce qu'il existe quand même ce qu'on appelle des plantes bisannuelles. Donc, mais en grossièrement, tous ces arbres qui fleurissent très tôt au printemps, c'est pour pouvoir refaire une floraison et refaire une graine jusqu'à la prochaine saison d'hiver.
Et alors Olivier, quel rôle jouent les insectes dans cette période ?
Eh bien, bien sûr, je pense que tout le monde le connaît. Si on a une floraison abondante au printemps, les abeilles vont sortir. On va avoir tous les insectes. Hein. Il n'y a pas que les abeilles, mais il y a beaucoup d'insectes qui vont polliniser toutes ces fleurs et qui vont ben, justement féconder pour pouvoir après avoir une plante qui pourra porter un fruit et des nouvelles graines. Donc, c'est vraiment une importance au printemps, selon les météos qu'on a, que la floraison se passe bien pour pouvoir après avoir une bonne production pendant la saison d'été et d'automne.
Olivier, on parle beaucoup de perturbations climatiques. Est-ce que le changement climatique perturbe la floraison ? Vous, depuis que vous êtes pépiniériste, vous avez remarqué un changement ?
Oui, alors tout à fait, on voit des changements par rapport au climat, par rapport aux conditions météorologiques, c'est clair. On le voit encore, on a eu une période d'hiver assez longue. Après, il a quand même fait plus froid cet hiver que des autres hivers. Mais je dirais qu'on a eu un hiver tout à fait normal par rapport à des années antérieures. Mais la météo fait changer beaucoup les conditions des végétaux, c'est clair. On voit l'humain, l'homme, essaie de contredire ou contrecarrer ces changements climatiques. On a tous vu ces images, ces belles images des fois, qu'on va chauffer, qu'on va mettre des bougies, on va faire certaines sources de chaleur dans des cultures maraîchères ou des cultures de fruits. Notamment, on voit dans les abricotiers, on a fait beaucoup de progrès dans ces améliorations. Mais c'est justement pour combattre ces différences de climat qui sont, je dirais, la plante va les adapter, mais elles sont plus rudes. Donc, on trouve des solutions pour pouvoir avoir toujours une récolte à la fin, qu'on ne puisse pas perdre toute sa récolte d'une année.
Olivier, si un arbre ne peut pas fleurir à cause de la météo ou d'une maladie, est-ce qu'il va mourir ?
Non, alors pas du tout. J'ai un autre exemple qui peut être assez compréhensif. On voit souvent les magnolias au printemps, ces beaux arbres qu'on va trouver dans des grands parcs, des grandes villes ou dans nos jardins, bien sûr. Alors le magnolia, souvent, bien sûr, il fleurit. Dès qu'il fait chaud au printemps, il va épanouir ses fleurs. Mais ça peut arriver que quand le bouton est en formation et puis qu'on voit les boutons, on se dit « Ah, d'ici 15 jours, il va être fleuri ». On a eu des années où c'est qu'il a gelé tellement fort que la fleur n'a pas eu le temps de s'ouvrir. Le bouton a gelé sur l'arbre, il est tombé, mais l'arbre va continuer de vivre, de grandir et sans avoir une floraison très jolie pour cette année-là. Ça ne donne pas de fruits, donc on y porte peut-être moins attention. On porte plus attention quand la vigne ou les abricots ou les fruitiers ont la floraison qui gèle. Mais un magnolia, ça arrive assez souvent que sa floraison soit compromise par les conditions météo.
7h, 8h, les jardinières.
Cerisiers, pêchers, amandiers en ce moment, ils sont tous en fleurs et ils appartiennent à une même famille, celle des prunus. Olivier, vous êtes pépiniériste, les arbres c'est votre domaine et vous nous parlez justement des prunus. Mais c'est quoi exactement cette famille ?
Eh bien, comme tu le dis, c'est une grande famille d'arbres. Nous, dans notre jargon, toutes les plantes sont appelées avec un nom latin, bien sûr. Donc, le mot prunus, on va le retrouver vraiment très, très souvent. C'est un prunus, c'est un prunier, mais c'est difficile à croire. Mais même pour un cerisier, ça s'appelle aussi prunus. Donc, c'est vraiment un groupe de plantes qui est très, très grand. Oui, ça, c'est vrai.
Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'arbres qu'on connaît et qui font justement partie de la famille des prunus, à part le cerisier et le prunier que j'ai déjà retenu ?
Alors voilà, justement, le cerisier sauvage qu'on trouve en forêt, on appelle ça un prunus avium. Donc c'est la base. Après, si on prend les lauriers qu'on voit beaucoup dans les haies, dans nos jardins, qu'on ne plante plus parce que c'est devenu une plante envahissante par rapport à sa graine, justement, eh bien, c'est des Prunus loroserasus. Donc, franchement, il y a vraiment beaucoup de plantes. On a les amandiers, vous avez dit, mais on a les pêchers, on a les pruniers, on a vraiment un grand nombre qui vont s'appeler Prunus. Mais souvent, après, on les a un petit peu modifiés par rapport aux arbres qui donnent du fruit. Donc, le cerisier, c'est un Prunus avium sauvage. Dessus, on y a greffé des variétés de cerises qui ont été sélectionnées avec le temps. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on avait vu une fois dans une émission ici à la radio. C'est qu'on va greffer des variétés de cerises dessus. Mais on peut aussi très bien greffer sur, justement, un Prunus, une variété de cerisier à fleurs ou bien sur un autre Prunus qui est un prunier, on va greffer des variétés de pruniers à fleurs. Et ces deux groupes d'arbustes à fleurs, que ce soit le prunier à fleurs ou le cerisier à fleurs, sont aussi très importants parce que on a sélectionné par des accidents de culture, des plantes qui ont fleuri naturellement puis que tout d'un coup ils se sont croisés. Après, on a récupéré des greffons, je dis on, c'est-à-dire des pépiniéristes qui sont beaucoup plus anciens que moi, et puis qu'après ils ont regreffé et ils ont stabilisé une variété d'arbres à fleurs qui reste maintenant courante, qu'on voit dans tous les jardins et les parcs qui fleurissent très bien dans nos contrées.
Alors Olivier, pourquoi certains prunus font des fruits et d'autres pas ?
Alors je dirais que normalement tous les prunus sauvages font des fruits et il y a aussi des prunus à fleurs. Je peux donner un exemple comme le prunus tralblazar qui est une très belle fleur blanche sur un prunier qu'on a greffé sur un prunier sauvage. Il fait une grosse prune violette qui n'est pas vraiment très intéressante mais qui est comestible, qu'on peut manger. Donc c'est pas un problème. Les gens des fois ils viennent avec, ils nous disent « ouais, il y a mon arbuste à fleurs qui a fait plein de fleurs puis il a des gros fruits ». Et c'est des prunes qui sont un peu très acides, le noyau ne se décolle pas, qu'on vient retrouver un petit peu la prune sauvage sur lesquelles on a greffé ancestral des variétés de fleurs.
Les jardinières.
Votre week-end commence au vert grâce aux jardinières et à notre invité Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Port-en-Truy. C'est le printemps et les arbres sont en pleine floraison. Parmi eux, il y a les prunus. On en parle ce matin et on prendra bien sûr le temps de répondre à vos questions jardinage par la suite.
Et toujours trois manières de nous joindre par téléphone. Vous poserez directement votre question à Olivier. Il faut composer le 0901 70 20 20. Vous pouvez aussi nous envoyer des photos avec votre question via les formulaires disponibles sur notre site ou simplement nous écrire un SMS. Vous tapez le mot « jardin » suivi d'un espace de votre question et de votre nom que vous nous envoyez au 939.
Olivier, on parle donc des prunus qui sont une grande famille d'arbres qui contient par exemple les cerisiers, les pêchers, les amandiers. On a vu que certains faisaient des fruits, d'autres pas. Si on se balade, est-ce qu'on peut reconnaître facilement un arbre de la famille des prunus ?
Oui, alors bien sûr, on a dit prunus parce que c'est le nom latin, le premier nom. Le nom, c'est le genre, et après on a l'espèce. Mais le nom prunus, on peut les reconnaître parce qu'on connaît tous la feuille d'un cerisier, parce qu'on a déjà cueilli des cerises. Si on a un cerisier à fleurs, eh bien, elle va y ressembler énormément. Elle va être toujours plus grande qu'un prunier à fleurs. Le prunier à fleurs, sa feuille sera toujours plus petite, comme sur les arbres fruitiers. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on peut les différencier le plus par rapport à la forme et puis à la grandeur des feuilles.
Alors Olivier, parmi les prunus qu'on voit en ce moment, il y en a avec de magnifiques fleurs roses. Ce sont lesquelles ?
Alors justement, ça c'est vraiment les cerisiers à fleurs, le Prunus cerulata canzan. Il a vraiment cette fleur rose assez soutenue qui fait une fleur double, donc énormément de fleurs. Donc ça donne vraiment des immenses arbres qui sont fleuris maintenant, je dirais, ça, qui sont un peu plus tardifs. Et ça c'est un cerisier à fleurs.
On peut le confondre avec le cerisier du Japon ?
Oui, alors tout à fait, parce que le cerisier du Japon, justement, c'est des prunus, donc des pruniers, des prunus de la variété des pruniers. Si je prends exemple du prunier sauvage qu'on a chez nous dans nos forêts, dans nos contrées, c'est le Prunus spinosa, la petite prunelle qu'on voit à l'automne, qu'on peut aller cueillir pour faire des confitures ou autres. Alors ça, c'est un prunier, et c'est sur cette variété de prunes sauvages qu'on a greffé justement des pruniers à fleurs. qu'on va retrouver, justement, comme vous l'avez dit, au Japon, pour ceux qui les ont déjà vus. Et là, c'est aussi un petit peu des pionniers, parce qu'ils ont, depuis des années, multiplié ces arbres pour en faire vraiment une quantité de variétés différentes qui sont très intéressantes. On en a chez nous, qui ont aussi des autres noms. Je te laisserai les citer dans la prochaine ligne que tu nous en as parlé. C'est les mêmes variétés, mais seulement ils fleurissent un peu plus tard qu'au Japon.
Et Olivier, vous nous avez... Bon, je ne vais pas dire le nom, parce que c'est déjà trop compliqué. Hein, le... J'en ai noté deux, trois. Le Prunus
Subtella autumnalis rosea. Alors ça, c'est le prunier à fleurs qui ressemble le plus, celui qu'on a chez nous, c'est celui qui ressemble le plus à la floraison des pruniers à fleurs qu'on va voir au Japon. Mais on a aussi le Prunus serracifera woody. Ça, c'est aussi un prunier qu'on voit beaucoup chez nous. Il fait un feuillage pourpre, pas rouge, mais pourpre foncé. Il fleurit rose, aussi une petite fleur rose, mais simple, contrairement au cerisier qu'on a parlé avant, qui fait une grosse fleur double. Le prunier woody fait une fleur simple, très fine, rose, et puis son feuillage, eh bien, il ressemble vraiment au prunier, mais il est pourpre. Et celui-là ne fait pas de fruits parce que il a été greffé sur un prunier sauvage, et puis la greffe qu'on va garder, eh bien, elle va faire qu'un feuillage rouge. Et ça, c'est devenu par un accident qu'une fois un arbre a poussé, a fait une forme comme ça, et qui a été réutilisé dans le futur. Je précise souvent, des fois, surtout quand on a un arbre à fleurs ou bien à feuillage rouge, des fois il y a des rejets qui poussent avec des feuilles vertes sur le même arbre, et bien c'est parce qu'il a été greffé et ces rameaux qui viennent se prendre par la base sur la plante, il faut les supprimer parce que sinon ils pourraient reprendre la force de l'arbre et puis pousser beaucoup plus que ce qu'on aura greffé puis que ce qu'on aura voulu avoir comme arbuste à fleurs.
Olivier, pour les amateurs et amatrices d'arbres ou d'arbustes fleuris, vous conseilleriez lequel pour un jardin ?
Alors, c'est vaste parce que ils ont tous des grandeurs, justement, des grandeurs et des formes qui sont très différentes. On en a encore un autre que Noélie nous a parlé et puis qu'elle a écrit, mais qu'elle a posé, donné son nom. C'est l'Autumnalis rosea. C'est un arbre qui est juste magnifique parce qu'il va, mais par contre, où il sera planté, il faut qu'il ait vraiment de la place parce qu'il va venir de hauteur à 3-4 mètres, mais il va venir à 5-6 mètres de large, il va faire comme un beau parasol. Alors si on va le mettre dans une haie, il ne pourra pas s'épanouir naturellement parce que c'est vraiment quand il est grand et adulte qu'il est beau. Donc on peut choisir plusieurs variétés de pruniers ou de cerisiers à fleurs. Maintenant, on en cultive beaucoup aussi des petits. C'est des variétés qui sont, je dirais, naines, qui poussent très peu. Et puis qu'on puisse après les mettre en pot, en bac, sur des balcons, et qui résistent très bien pour l'hiver, qu'on peut les laisser passer l'hiver dehors, qui fleurissent souvent très vite au printemps. Puis après, pendant l'été, on a un beau petit arbuste à feuilles qui supporte très bien le sec, le chaud, et qui peut rester en pot. Donc, il y a vraiment une quantité de variétés qu'il faut se renseigner un petit peu selon où vous voulez le mettre ou le planter avant de l'acheter pour avoir le bon choix.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier. On en sait beaucoup plus sur les prunus. Et puis, si on a besoin de plus d'informations, il ne faut pas hésiter à se tourner vers des professionnels comme vous. 7h45 chez les jardinières, on va répondre à vos questions jardinage. Et vous pouvez aussi nous appeler au 0901 70 20 20. Olivier, on a reçu également une question de Martine. Elle ne nous vient pas des Verrières, mais de Cortaillot. Et elle nous dit « Bonjour, j'ai entendu que l'on peut utiliser les mares de café comme fertilisant pour les rosiers, fleurs et arbres fruitiers. Est-ce que c'est une bonne idée ? Faut-il le mélanger avec du terreau ? Avec ces changements de météo, chaud, froid, nos arbres fruitiers ont déjà des pucerons. Comment faut-il s'y prendre ? » Alors, il y a deux questions. On va commencer par le marc de café. Bonne, mauvaise idée, info, intox ?
Alors non, bonne idée, le marc de café, bien sûr, après ça dépend toujours des quantités. C'est comme les cendres dans un jardin, ça va amener c'est un amendement, ça ne va pas amener une nourriture dans le marc de café, on ne va pas y trouver des éléments fertilisants. pardon, on ne va pas y trouver des effets pour combattre des pucerons ou quoi que ce soit. Ces apports de marc de café, selon la quantité qu'on va mettre dans sa terre, eh bien, ça va faire un amendement, ça va changer la structure du terreau, du sol, là où on va le mettre. Donc, si on en met vraiment en quantité, parce qu'on a un grand bar à café ou c'est qu'on a vraiment une masse de marc, ça peut changer vraiment beaucoup la structure, mais ça se met à raison de 5 à 10% selon le volume de terre. Donc ça va juste changer le fait que la plante pourra faire un système racinaire peut-être plus facile, ça va drainer le sol, mais ça ne va pas changer aux questions au niveau fertilisant.
Et puis la seconde question de Martine, elle se demanda avec les changements de météo chaud, froid, ces arbres fruitiers ont déjà des pucerons, que doit-elle faire ?
Oui, alors c'est la grande question de maintenant chez tout le monde. On s'inquiète déjà beaucoup parce que on a beaucoup ces petits parasites. Donc il y a les pucerons, mais il y en a des autres. Il y a des cochenilles, il y a aussi d'autres parasites qui viennent s'installer sur nos arbres fruitiers, rosiers aussi. Voilà, la problématique, c'est toujours est-ce qu'on traite, est-ce qu'on traite pas, est-ce qu'on utilise des produits chimiques, est-ce qu'on trouve des alternatives. Il y a des alternatives. On parlait du marc à café, le purin d'ortie, par contre, c'est non plus pas un insecticide, c'est aussi quelque chose pour améliorer là par contre la végétation, mais il y a des produits, des savons noirs, des choses, des alternatives. Si on commence de traiter maintenant, il faut savoir que si on veut avoir un bon résultat dans une lutte contre un puceron, il ne faut pas se dire je traite une fois ou je fais traiter, parce que ça devient aussi le truc, on prend un professionnel, on y dit traiter, c'est pas parce qu'on aura traité une fois qu'on n'aura plus de puceron. Donc après il y a un équilibre, il y a le seuil de tolérance où c'est qu'on peut adapter notre visuel en disant bon ben il y a des pucerons, on les laisse vivre un moment et les chaleurs qui reviendront, la sécheresse qui va revenir d'ici un mois, ils vont disparaître naturellement. Donc c'est des cycles où c'est qu'il y a ces petits pucerons qui viennent, et moi je pense que pour tous les amateurs d'apprendre à observer et accueillir ces petits pucerons, ça empêche d'utiliser des produits pour après avoir des retombées qui sont pas forcément intéressantes, et surtout que les produits bien sûr ne sont plus non plus ce que c'était, parce que bien sûr il a fallu diminuer les doses, il a fallu diminuer les effets chimiques, ce qui est normal. Donc accepter les pucerons, c'est favoriser d'autres colonisations d'insectes qui vont venir se nourrir d'eux, on aura plus de coccinelles, on aura plus de... Donc essayer de se dire qu'à un moment donné le puceron fait partie au printemps de nos plantes pour pouvoir après les laisser, ils vont mourir naturellement.
Merci Olivier. On a une question, la question de Janine qu'on n'a pas pu entendre tout à l'heure à l'antenne. Elle vient des Verrières à 1000 mètres d'altitude et elle se demande si elle peut planter une glycine.
Oui, alors tout à fait, la glycine, on parlait de prunus avant, la glycine c'est une Wisteria sinensis, donc c'est son nom latin, ça va très bien pousser dans les franches montagnes, les verrières où c'est qu'on est en altitude. Il y a juste une chose qui va être différente, c'est que sa floraison pourrait être portée de 10-15 jours par rapport à une glycine qui serait plantée contre une façade en ville, au bord du lac ou comme ça. Donc bien sûr, elle peut la planter. Sachez toujours qu'une glycine, c'est aussi une plante qui a été greffée. Donc pour avoir des belles fleurs bleues, roses ou blanches, il faut déjà acheter à la base une glycine greffée et faire très attention quand elle commence de grandir, quand elle est jeune, que le porte-greffe, donc le sauvageon, ne vienne pas refaire des branches. Et puis on se dit, ah, elle pousse beaucoup, c'est bien. Et puis en fait, c'est la glycine sauvage qui ne fera pas de fleurs. Donc une glycine, ça peut se planter en altitude, ça s'adapte très bien, la floraison sera plus tardive.
7h, 8h, les jardinières.
7h, presque 54 chez les jardinières ce matin. Nous avons parlé de floraison des arbres au printemps et de la famille des prunus avec Olivier Ribaud. Une émission que vous pourrez réécouter en cours de matinée sur notre site. Olivier, avant de se quitter, on a encore une question d'une auditrice ou d'un auditeur. Je ne sais pas, Noélie.
Une auditrice, oui, qui nous a appelé tout à l'heure. Et elle se pose la question, est-ce qu'elle peut couper les fleurs de rhubarbe, Olivier ?
Oui, alors bien sûr, elle peut les couper. C'est la rhubarbe, quand elle commence à fleurir, la fleur va absorber beaucoup d'énergie. C'est un rhizome, c'est une racine qui sort au printemps avec la chaleur de nouveau. Et puis dès qu'elle a décidé, elle va faire une fleur. Il y a des fleurs aussi sur les rhubarbes quand elles sont dans des situations un peu compliquées. Bah, le sol n'est pas assez riche ou pas assez humide, par exemple. Et puis elle va se dire, bon, bah, je fais de la graine, donc elle va faire une fleur. Mais de l'éliminer va favoriser à ce que la plante pousse plus et qu'on ait plus de tiges de rhubarbe, bien sûr.
Merci beaucoup, Olivier. On rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier, pépiniériste à Porrentruy. On vous dit à très vite chez les jardinières.
Merci, Olivier. Retour des jardinières la semaine prochaine pour une émission spéciale. On parlera plantes sauvages.
Et oui, avec Muriel Jeannerat qui sera avec nous. On parlera entre autres du plantain, de l'égopode ou encore de la stellaire, des plantes qui poussent chez nous et qui sont comestibles à découvrir samedi prochain chez les jardinières.
Bah, rendez-vous dès 7h pour une dégustation de plantes sauvages. On ne prendra pas de petit déjeuner. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Bon week-end Olivier et bon week-end bon à week-end. Toutes et à tous. Merci d'avoir suivi les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.